catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du père directeur.
Eh bien voilà, mes auditeurs internautes, bienvenue à ces rendez-vous de la catéchèse. C'est pas la première de cette année, car la première catéchèse a été faite le 2 janvier. C'était le vendredi. C'était oui. Une catéchèse rétroactive. Mais pour cette année, c'est la toute première pour un lundi, un tout lundi de l'année 2026. Nous sommes bel et bien là pour surtout revenir au texte liturgique que l'Église nous a proposé hier. Hier, c'était la fête de l'Épiphanie, l'Épiphanie du Seigneur, ce lundi de l'Épiphanie, avec le Père Roger, à qui je dis bonjour et bonne année.
Et bonjour Cédric, bonne année, bonne année à toutes et à tous.
Alors, avant tout, nous allons remettre cette catéchèse entre les mains du Seigneur par ces chants à l'Esprit. Merci donc à Gina Loussanson qui assure cette réalisation de la dite catéchèse. Père, vous avez la parole.
Et merci beaucoup, Cédric. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Et épiphanie, hein, il y a plusieurs épiphanies. Déjà, la naissance de Jésus est une épiphanie, c'est-à-dire le fait qu'il est né, il s'est manifesté, au moins à ceux qui étaient là. Mais quand nous célébrons l'épiphanie, après la Sainte Famille, c'est pour célébrer la manifestation du Seigneur aux païens. Parce qu'il s'est manifesté déjà à sa naissance. Il va encore se manifester au Jourdain. Le baptême du Seigneur, c'est aussi une épiphanie. On l'appelle d'ailleurs une épiphanie, si vous voulez, trinitaire. C'est-à-dire qu'au Jourdain, c'est le Christ qui se manifeste le jour de son baptême. Parce que le Père le déclare comme fils bien-aimé et qu'il faut écouter. Le Père se manifeste par sa voix et puis la colombe aussi se manifeste, signe de l'Esprit-Saint. Mais le Christ va aussi se manifester un peu plus tard au noces de Cana. Les textes de Jean 2 de 1 jusqu'à 11 éclairent ce jour-là. Il s'est manifesté, ont vu sa gloire. Ceux qui étaient là ont vu sa gloire. Après le baptême du Seigneur, voilà pourquoi les 18 janvier, il y aura le récit de noces de Cana. En principe, c'est ça. Parce que c'est une révélation qui est tout à fait progressive, une manifestation progressive, j'allais dire. Alors, jusqu'au 2 février, le 2 février, c'est encore une sorte d'épiphanie, le Christ qui se manifeste au temple de son Père. Et c'est en principe à l'époque, c'était la fin du cycle de Noël, le 2 février, lorsque on présentait le Christ au temple de Jérusalem. C'était la fin du cycle de Noël, comme on disait. Et donc, il y a plusieurs épiphanies, mais ce qui est important, c'est que quand on parle de l'épiphanie après la Sainte Famille, c'est la révélation du Christ aux nations païennes. Et ce qui symbolise les nations païennes qui ont découvert le Christ sont ce qu'on appelle les mages. On parle de trois mages. La Bible ne dit pas qu'il y avait trois mages, Matthieu 2, de 1 à 12. Mais dans la tradition, on considère qu'ils sont trois parce qu'il y a trois cadeaux, trois offrandes qu'ils font à Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Et donc, voilà pourquoi on a dit qu'ils seraient trois. On leur a même donné des noms, Melchior, Balthazar et puis... Gaspard. Donc voilà, ça c'est ce qui est important à retenir. Alors, c'est que le mage fond, c'est-à-dire cette démarche qui les conduit de chez eux jusqu'à Bethléem en passant par Jérusalem, ça montre un peu l'itinéraire de foi de chacun de nous. C'est un itinéraire qui est parfois sujet aux obstacles, c'est-à-dire il y a toujours un Hérode sur notre chemin spirituel, sur notre itinéraire spirituel, qui peut toujours nous dérouter, qui peut toujours nous empêcher d'aller rencontrer Dieu. Il faut vaincre tous ces obstacles symbolisés par Hérode, qui a voulu vraiment le dérouter. Alors, ils arrivent et puis ils apportent leur cadeau, c'est-à-dire ça montre ce que chacun de nous doit faire aussi pour l'Église, pour les pauvres, pour... pour offrir quelque chose à Dieu, hein, dont ils amènent l'offrande, les offrandes comme offrande or, encens et puis myrrhe, chacun de nous devrait apporter quelque chose à cet enfant qui vient de naître. Et la meilleure offrande, c'est bien sûr l'offrande de nos cœurs. Nos cœurs doivent être tournés vers lui. Offrons-lui nos cœurs pour que nos cœurs deviennent en ce temps de Noël des crèches vivantes. Le Christ est présent dans la crèche, dans la mangeoire. Il faut que nos cœurs ressemblent à la crèche, à la mangeoire où habite le Christ, habité par le Christ, pour que nous soyons transformés par cet enfant qui vient de naître. Au retour, hein, après avoir rencontré l'enfant Jésus, ils vont changer d'itinéraire. Ils ne rentrent plus par le chemin d'Hérode parce que ils ne veulent pas exposer l'enfant. Hérode les attendait pour filer, hein, pour avoir des informations sur l'enfant. Ils changent de chemin et ça, c'est pratiquement ce qu'on appelle la conversion des mages. Ils changent la direction et notre défi important en ces temps de Noël, c'est aussi la conversion, conversion de nos cœurs. Merci.
+243 81 99 66 0 98 +243 81 99 66 0 98. Nous parlons de l'épiphanie du Seigneur comme le Père l'a introduit. Il y a eu plusieurs épiphanies, mais nous restons sur ce que l'Église a célébré hier, hein, la présentation de Jésus aux nations païennes. Alors, mes auditeurs internautes, nous allons prendre certains de messages, questions et préoccupations. Nous allons prendre le tout premier. Bonjour mon frère Cédric. Bonjour mon père directeur. Merci pour la catéchèse. Voici mes questions. Que représente le mage dans le récit de l'épiphanie? Que nous enseigne-t-il sur la recherche sincère des dieux au-delà de frontières culturelles et religieuses?
Merci beaucoup, hein, pour la question. Les mages représentent les païens, c'est-à-dire ils représentent aussi vous et moi, parce que nous nous considérons comme chrétiens, mais dans le contexte de l'époque, les juifs nous considèrent comme des païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, ceux qui ne sont pas issus biologiquement d'Abraham sont tous des païens. Et donc, les mages représentent aussi vous et moi. Voilà pourquoi certains ont même pensé que voilà, parmi eux, il y a un Africain, il y a un Asiatique, un Européen et puis un Africain, hein, d'après certaines sources. Mais ça, c'est juste la tradition. Parce qu'ils nous représentent, en fait. Donc, nous ne sommes pas des Juifs. Voilà pourquoi il a fallu des mages, des gens qui nous représentent. Parce que en allant vers le Christ pour l'adorer, eh bien, le salut apporté par le Christ acquiert une dimension universelle. C'est tout le monde qui peut être sauvé pourvu que vous accueillez le Christ, comme les mages l'ont fait. Ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire sur les mages, bon, les mages sont des vrais chercheurs de Dieu, hein. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez suggéré vous-même dans votre question. Ce sont des astrologues, des gens qui s'occupaient du mouvement des astres. Il y a comme ça dans l'Antiquité des gens qui pensaient que Dieu parle à travers le mouvement des astres. Alors, chaque astre peut prendre une position qui traduit un message de Dieu. Parce que chez les Juifs, Dieu parle à travers les anges, à travers les prophètes. Voilà pourquoi les bergers qui sont des Juifs ont reçu l'annonce de Jésus à travers un ange qui est venu leur dire: je vous annonce une grande joie aujourd'hui dans la cité de David, il vous est né le Messie, le Christ. Parce qu'ils sont des Juifs. Mais les païens, notamment les mages dans leur contexte d'origine, ne connaissent pas les anges. Les anges ne parlent pas aux hommes chez eux. Chez eux, Dieu parle à travers les étoiles, à travers les astres, les mouvements des astres peuvent être interprétés comme un message divin. Voilà pourquoi Dieu utilise aussi ces créneaux-là. Il utilise justement cette piste-là pour aider les mages à découvrir que Jésus est né. C'est ainsi que, bon, en interprétant les mouvements des astres, ils vont remarquer un astre exceptionnel. Historiquement, certains pensent à ce qui s'est passé au mois de décembre de l'an 7 avant Jésus-Christ. la jonction entre Saturne et Jupiter, qui a donné une étoile impressionnante dans le Moyen-Orient ancien. Cette étoile était aussi perceptible à partir d'Israël. À partir d'Israël, on pouvait voir au mois de décembre de l'an 7 avant Jésus-Christ, cette étoile imposante qui résultait de la jonction entre Saturne et Jupiter. Ça, c'est historiquement parlant. Est-ce que Matthieu parle justement de ces phénomènes historiques? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais au moins, si on veut situer les textes de Matthieu, hein, la visite des mages, l'étoile qu'ils ont vue, dans le contexte des années qui entourent la naissance de Jésus-Christ, eh bien, on peut dire que c'est la jonction de Saturne et Jupiter advenue au mois de décembre, à partir du 4 décembre de l'an 7 avant Jésus-Christ. Alors, quand ils ont vu cet astre-là, bon, ils ont abandonné tout. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il y a un message important que Dieu leur adresse. Et pour eux, ils ont interprété cela en disant, d'après ce que Matthieu dit, hein, en disant que, bon, c'est le roi des Juifs qui est né. Alors, allons-y pour découvrir vraiment si le message que nous traduit, que nous transmet cette étoile est vraiment conforme à ce que nous pensons. Parce que pour eux, ça signifie que le roi des Juifs est né. Ils sont venus et puis, eh bien, ça a confirmé leur interprétation selon laquelle cette étoile veut dire que le roi des Juifs est né. Ils ont vu ce roi et puis ils l'ont adoré. Donc, pratiquement, ce sont des chercheurs de Dieu qui nous invitent aussi à chercher Dieu, chacun dans sa vie, avec ce qu'il a comme background culturel, chacun à travers son travail. Vous pouvez rencontrer Dieu à travers votre travail, à travers votre expérience spirituelle, à travers votre culture, vous pouvez rencontrer Dieu. Parce qu'ils ont rencontré Dieu aussi à travers ce qu'ils avaient comme aspiration religieuse, comme travail, comme passion, hein, interprétation des mouvements des astres, et à travers cette passion-là qu'ils avaient, hein, connaître les mouvements des astres, les interpréter, eh bien Dieu s'est révélé à eux à travers l'étoile de Bethléem.
Alors, il poursuit, pourquoi Hérode et les chefs religieux, pourtant informés des Écritures, ne vont-ils pas à la rencontre de l'enfant Jésus, contrairement aux mages venus de loin? Les mages offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Que signifient ces dons et quels dons sommes-nous appelés à offrir aujourd'hui au Christ dans notre vie quotidienne? C'est Sylvain, depuis Matadi.
Merci à Sylvain. Bon, il y a deux questions. D'abord, pourquoi eux n'adhèrent pas à ce message? Bon, parce qu'ils ne sont pas associés à tout le processus, toute la dynamique commencée à Nazareth. Ils ne sont pas associés à cela. Certainement pour eux, le Messie va naître à Bethléem, c'est vrai, mais il ne peut pas naître de n'importe qui. Ça doit être probablement une fille de Jérusalem. Peut-être de la famille d'un grand prêtre, d'un scribe, d'un pharisien. Or, eux ignorent tout cela. Dieu n'est pas passé par ce chemin-là. Il n'est pas passé par une fille qui serait de Jérusalem, proche des grands prêtres ou quoi. C'est une fille de Nazareth. Et donc, ils ignorent tout ce qui s'est passé à Nazareth. Depuis l'Annonciation et la Visitation, ils ignorent ça. Voilà pourquoi, bon, ils sont dubitatifs. Ils sont dubitatifs parce que, bon... Quand même, le Messie, bon, s'il est né à Bethléem, mais sa maman, c'est qui? Une fille de Nazareth. Bon, ça suscite quand même des doutes pour eux. Voilà pourquoi ils sont vraiment dubitatifs. Hein, ils sont assez sceptiques même. Hein, ils n'y croient pas. Tandis que Hérode, s'il ne croit pas, c'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons politiques. Parce qu'il veut protéger son trône. On dit le roi des Juifs est né, mais pour autant qu'il sache, eh bien, parmi ces femmes, aucune de ces femmes n'a mis au monde en ce moment-là. Parce que ses enfants héritiers étaient déjà assez avancés en âge. Et lui-même, il était déjà presque plus ou moins 70 ans, et donc il avait déjà son testament. Il savait que ses héritiers, c'est Hérode Antipa, Hérode Philippe et puis Archélaos. Et donc quand on lui dit « le roi des Juifs est né », bon, ça les bouleverse. Ça les dérange, son projet politique par rapport à ses héritiers, est en danger. Voilà pourquoi il ne va pas accueillir Jésus, au contraire, il va essayer de le tuer. Alors, ils amènent des dons, et j'aime beaucoup Radio Maria, Radio Horeb, hein, quand ils font le marathon, dans la sensibilisation, notre ami Richard Cocker, le directeur de Radio Europe, Radio Maria en Allemagne, et présente toujours les offrandes, les trois offrandes du roi mage. Pour lui, c'est les trois devoirs qu'un auditeur peut rendre à Radio Maria. Et donc, il y a l'encens. L'encens représente la prière. La myrrhe représente les sacrifices. Et puis, l'or représente l'argent. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est sa conception. En fait, c'est un théologien. Il a un doctorat en théologie de l'Université Grégorienne de Rome. C'est un dogmaticien. Le père Richard Cocker, de Radio Horeba, Radio Maria Allemagne. Alors, il dit, l'encens, c'est la prière. Il faut prier pour Radio Maria, et bon, prier pour l'Église. L'or, c'est l'argent. Donc, votre offrande à l'Église, à la radio. Et puis, la myrrhe, c'est la souffrance, le sacrifice qu'il faut consentir pour les biens de ton Église, de ta paroisse, pour les biens de Radio Maria. Ça, c'est pour les carmes, pour les bénévoles, pour agents, pour les auditeurs de cette radio. Voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à ces deux questions de Sylvain, de Matadi. Meilleur vœu à ceux qui nous suivent, Matadi.
Merci. Nous allons prendre encore une série de questions de Arsène Ika, de la paroisse Marie-Reine des Apôtres. Il dit, merci mon père pour la catéchèse. C'est curieux quand même de voir que Luc, qui tend vers l'universalité, ne parlait pas de l'épiphanie. Épiphanie, mon père, ensuite, noce de Cana. Malgré tout cela, comment expliquer l'interrogation de Jude Thaddée à Jésus, à savoir pourquoi il ne se manifeste pas au monde païen?
Ah, ok, il y a plusieurs questions. Toujours Sylvain?
Non, ça c'est Ika.
Aïka de Pio.
Arsène, Reine des Apôtres.
Ah d'accord, Reine des Apôtres. Bon, Luc ne parle pas de l'épiphanie, oui, comme Matthieu. Et puis de deux, il y a aussi la question de Thaddée, n'est-ce pas?
Oui.
Et pourquoi tu ne te manifestes pas en nous? Ok, ce sont ces deux questions-là. D'abord, Luc, bon, le récit de Luc, hein, le récit de Luc a aussi une dimension universelle. Si vous lisez Luc 2, le récit qu'on a lu, la nuit de Noël, en tout cas l'universalité apparaît. L'universalité du salut. Pourquoi? Parce qu'il situe la naissance de Jésus dans un projet qui est planétaire. Il y a l'édit de César Auguste. Et quand l'empereur décidait, eh bien, ça concernait le monde entier. Et Luc le dit, ça concernait tout le monde habité. Donc, le cosmos, tout le monde habité devait absolument aller se faire recenser. Donc, il y a un événement planétaire qui concerne tout le monde, à la suite de l'édit ou bien de la décision de l'empereur. Et il nomme aussi les chefs politiques de l'époque, Quirinius, gouverneur de Syrie, Auguste César qui est à Rome. Et dans ce contexte-là universel, planétaire, Jésus va naître. Donc il y a déjà cette dimension universelle du salut chez Luc. Même si, dans un premier temps, Jésus, plutôt, la révélation est faite aux bergers. Alors, si on regarde seulement cet aspect-là, on dit, bon, chez Luc, il se limite seulement, il est seulement le Messie des Juifs. Mais vous verrez que dans son évangile, ça va au-delà. Hein, parce que vous savez que Luc écrit dans le monde grec. C'est Matthieu qui écrit surtout pour les judéo-chrétiens, pour les Juifs, ainsi de suite. Mais Matthieu et Luc plutôt écrit dans le contexte grec. Cette universalité du salut existe aussi. Parce que l'évangile de Jésus s'adresse à tout le monde et de façon particulière aux pauvres. Et ça va même vers les païens. Chez Luc, en tout cas, il y a toute cette dimension-là. Et surtout dans son deuxième volume, c'est-à-dire les Actes des Apôtres. Là, on va voir qu'avec Paul, l'évangile va vers les païens. Paul, déjà, Pierre va évangéliser, le centurion romain, dans Actes 10, qui est un païen. Et puis Paul va porter l'évangile dans le monde païen. Donc, l'universalité est sous-entendue ou même supposée dans l'évangile de Luc aussi. Alors, pourquoi tu vas te manifester à nous et pas aux autres? Bon, ça c'est en termes de collaboration. Le Christ a fait son travail. Il est venu vers nous. Ceux qui ne l'ont pas accueilli ne pourront pas bénéficier de cette révélation, de cette manifestation de Jésus. Donc lui, il s'est manifesté. Matthieu dit à travers l'étoile, bon, chez lui qui s'est manifesté de plusieurs manières aussi, mais il y en a qui ne l'ont pas accueilli. Et donc, cette manifestation ne portera pas de fruits. Voilà pourquoi il dit, bon, il se manifeste à ceux-là qui l'ont accueilli. Parce qu'en se manifestant à eux, ils en ont tiré profit. Aux autres, la manifestation du Seigneur n'a pas porté de fruits escomptés parce que bon, ils l'ont refusé, ils ne l'ont pas accueilli.
Il poursuit encore Arsène Hicam. L'astrologie divination étant prohibée par la Bible, l'usage de l'astrologie n'est bonne que quand cela s'arrange avec les prophéties.
Non, et ils ne font pas la divination. La divination, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un devin qui va prétendre vous dire l'avenir. Donc, eux, c'est pas tellement ça. Eux, c'est le mouvement des astres. Et ce qu'ils font, dans la Bible, il n'y a pas un charisme pareil. Donc, des gens qui doivent interpréter le mouvement des astres. Ben, seulement que chez les Juifs, dans la tradition juive, il y a certains mouvements célestes qui peuvent traduire aussi un message divin. Par exemple, la jonction de Saturne et Jupiter, c'est considéré comme l'étoile du Messie. Ça, c'est dans la tradition juive. Dans leur tradition, ils disent que l'étoile du Messie, c'est ça. Ce sont des peuples de l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, en général, on pensait qu'à la naissance d'un roi, il y avait aussi l'apparition d'une étoile dans le ciel. On sait que la littérature grecque antique, on dit que, j'ai oublié l'écrivain qui l'a écrit, qui l'a dit, quand Alexandre le Grand est né, il y avait une grande étoile qui est apparue dans le ciel. Alexandre le Grand, c'est 4e siècle avant le Christ. Donc voilà, il y avait une étoile imposante dans le ciel à la naissance d'Alexandre le Grand. C'est une tradition antique. C'est comme cela que les gens de l'Antiquité pensaient. Et les Juifs aussi, étant dans le contexte antique, bon, ils disaient que bon, l'étoile du Messie, l'étoile qui va apparaître à la naissance du Messie, ça doit être la jonction de Jupiter et Saturne. Bon, c'est ça ce qui est arrivé vers l'an 4 avant Jésus-Christ, autour de l'an 7, plutôt vers l'an 7 avant Jésus-Christ.
Et sa dernière préoccupation, l'astre placé par Dieu qui conduit les mages à Hérode et qui est désormais au courant de ce qui s'est drame, les mages ne sont-ils pas aussi indirectement responsables du massacre des saints innocents?
Mais les mages ont fait leur travail parce que on dit les rois des Juifs aînés et ils ne connaissent pas les textes bibliques. Ils ont vu l'astre. Partant de leur connaissance, leur expertise dans l'interprétation des mouvements des astres, ils ont remarqué qu'il y avait un astre imposant dans le ciel et pour eux, ça doit être la naissance d'un roi. Et cet astre-là doit être au-dessus du pays où ce roi-là est né. Alors, ils ont commencé à marcher et finalement, ils se rendent compte que l'étoile apparaît dans le ciel d'Israël, au-dessus d'Israël. Alors, voilà pourquoi ils ne vont pas aller à Bethléem, parce qu'ils ne savent pas que le Messie doit être né à Bethléem. Ça, c'est ce que dit l'Ancien Testament. Ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. Donc, si le roi est né, ça doit être dans la capitale. Alors, ils vont directement dans la capitale. Et comme il y a un roi en Israël, qui s'appelle Hérode, entre parenthèses, les grands, et donc ce roi qui est né doit être né dans sa famille. Ça doit être l'une de ses épouses, l'une des reines épouses de Hérode les Grands, qui vient de mettre au monde. Voilà pourquoi ils vont chez lui. Ils vont chez lui, croyant que eh bien, c'est l'une des femmes d'Hérode qui a mis au monde. Donc, ils sont allés se livrer chez lui, croyant que, bon, monsieur est dans le projet de Dieu et que réellement, il y a une naissance dans sa famille. Probablement, il n'y a pas de naissance parce qu'il a déjà plus de 70 ans. Il va mourir d'ailleurs 2 ans après. Et ses héritiers avaient déjà l'âge requis parce que quand Hérode meurt en l'an 4 avant Jésus-Christ, d'office, ses héritiers prennent le pouvoir parce qu'ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà nés. Donc, il y avait Hérode Antipas et puis Hérode Philippe Archélaus. Alors, voilà, il est vraiment déconcerté. Il dit, mais ces gens disent que le roi des Juifs est né, c'est-à-dire le roi qui doit prendre ma place. Or, moi, j'ai déjà dans mon testament politique, j'ai déjà mes 3 enfants qui sont mes héritiers. Alors, il voit que son projet politique, son testament politique risque de ne pas être appliqué. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre un peu ce que dit Matthieu. Donc, les mages ne savaient pas. Donc, pour eux, ça doit être dans la famille d'Hérode que cet enfant est né. Voilà pourquoi ils vont chez Hérode, qui est à Jérusalem. Mais après, on va leur dire non, ben, le Messie va naître à Bethléem. Alors ils vont à Bethléem et c'est là qu'ils vont le rencontrer.
Voilà, c'était le message de Arsène Hic depuis la paroisse Reine des Apôtres. On va écouter cette note vocale.
Bonjour mon père, bonjour frère journaliste. Ah, c'est Patrick, si c'est. J'ignore un peu les noms. Hein. S'il vous plaît, sans plus tarder mon père, voici mes questions. Je veux un peu savoir l'origine de la fête d'Épiphanie. Alors qu'il y avait déjà, Jésus s'était déjà manifesté, il y a eu quoi, l'Épiphanie, qui avait eu l'idée de créer cette fête dans l'église. Ma deuxième question, je veux un peu savoir, mon père, votre préface de ce matin, vous disiez, l'or est offert au roi, l'encens au vrai Dieu et la myrrhe pour sa sépulture. Que signifie on offre l'encens qu'au vrai Dieu? C'est-à-dire, on n'a jamais offert l'encens au faux Dieu? Ma troisième et dernière question. Alors que nous sommes comptés parmi les pays ayant plus d'églises, mais nos mentalités ne changent toujours pas, est-ce que nous avons vraiment besoin pour le changement de nos mentalités, l'évangélisation encore? Ou bien la motivation de prise de conscience de tout et chacun de nous, tout simplement, mon père. N'est-ce pas motiver la conscience seulement de tout et chacun de nous pour qu'il ait le changement de mentalité? Car nous sommes très évangélisés même. C'est Félicien Katumba de Marie de la paroisse Saint-Pédis-Singuier. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup à Félicien Katumba depuis Saint-Pédis ici à Kinshasa. L'épiphanie a commencé d'abord dans l'Orient, Orient chrétien, déjà avant le 4e siècle. Donc ils célébraient la naissance de Jésus et puis l'arrivée des mages et les baptêmes en même temps. Donc, on célébrait le même événement. Aujourd'hui encore, il y a en Orient chrétien, on célèbre la fête de Noël, non le 25, mais le 6 janvier. Et ils célèbrent et Noël et la visite des mages et aussi le baptême du Seigneur en même temps. Pourquoi? Parce que c'est une triple épiphanie. Il se manifeste à Noël, à Bethléem, il se manifeste aux mages à travers l'étoile qui conduit les mages de l'Iran ancien, de là où ils habitaient, jusqu'à Bethléem, et se manifeste aussi au Jourdain. Donc, ils célèbrent tout ensemble. C'est ce que nous appelons en fait les cycles de Noël. Et c'est resté dans certaines anciennes hein, de l'Antiquité, pour ceux qui lisent les bréviaires, hein, ceux qui prient, pardon, avec les bréviaires, je crois, c'est hier, hein, le soir de l'Épiphanie, l'ancienne du Cantique de Marie, faisait allusion justement à la naissance. Donc il s'est manifesté à sa naissance. Il s'est manifesté. J'entends, je retrouve cette antienne-là. Hier, pendant les vêpres, je me rappelle que c'était ça l'antienne. Mais avant de retrouver cela, je continue à faire un petit commentaire là-dessus. Et donc, c'est ça ce qu'il célébrait. Il célébrait un triple événement. Naissance de Jésus, visite des mages. Et en même temps aussi, ils célébraient les baptêmes du Seigneur, donc ensemble. Alors, en Occident, quand on a commencé à célébrer Noël, la fête de Noël en Occident, vers 336, bon, ils n'ont pas pris le chemin de l'Orient, c'est-à-dire célébrer tout à la fois. Ils ont préféré célébrer Noël, et puis après, l'Épiphanie vient après. Ils ont séparé Noël de l'Épiphanie, alors que dans l'Église orientale, c'est un événement qu'on célébrait le même jour. Donc, naissance de Jésus, Épiphanie et puis son baptême. Alors, voilà pourquoi c'est tout à fait différent chez nous. On a séparé Noël de l'Épiphanie. L'Épiphanie vient après. Mais dans les calendriers liturgiques, hein, ça c'est l'abbé Freddy qui pourra le dire mieux que moi, en fait, il y a tout un cycle de Noël. Même si le temps de Noël s'arrête avec le baptême de Jésus, mais il y a une autre Épiphanie du Seigneur qu'on célèbre le 2 février. Le 2 février, c'est la manifestation du Seigneur dans le temple, quand on va le présenter au temple. Et là, c'est le 40e jour après Noël. Donc pratiquement, on a comme impression qu'il y a des façons tacites un cycle de Noël qui commence le 25 décembre. Évidemment, officiellement, avec le baptême du Seigneur, c'est fini Noël. Mais ça continue en fait jusqu'au 40e jour, le 2 février, quand on va le présenter au temple. Là aussi, c'est une manifestation. Il se manifeste dans le temple de son Père, de Dieu son Père. Voilà, alors l'antienne, le jour de l'épiphanie du Seigneur, au Vêpres, pour ceux qui prient la bréviaire, hier soir, voilà ce que nous disions le soir de l'épiphanie, dans l'antienne du Cantique de Marie. Nous célébrons trois mystères en ce jour. Ça, c'est le bréviaire catholique. Et là, c'est l'épiphanie. Le soir de l'épiphanie au Vêpres, nous célébrons trois mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin au noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans les journées pour nous sauver. Alléluia. Mais en fait, quand l'Église en Occident, à Rome notamment, a voulu séparer Noël de l'Épiphanie, on a mis Noël le 25, et puis le 6 janvier en principe, c'est pas le 6 janvier, mais le dimanche proche du 6 janvier, on célèbre l'Épiphanie. Mais dans le bréviaire, on fait aussi allusion à d'autres épiphanies, c'est-à-dire les baptêmes du Seigneur, qui est une épiphanie que nous allons célébrer le dimanche prochain, et puis la manifestation de Jésus au noces de Cana, quand il a changé l'eau en vin. Et il y a des années où, après le baptême du Seigneur, le dimanche qui suit, eh bien, c'est le récit des noces de Cana. Mais cette année, c'est un peu différent, mais il y a des années où, le dimanche après le baptême du Seigneur, il y a les noces de Cana. Alors, or et encens et sépulture, bon, c'est ça, parce que l'or, l'or, c'est la royauté de Jésus. Il est roi. L'encens, c'est sa divinité. Et puis, la myrrhe, c'est son humanité. Et comme il est humain, il va mourir, parce que tout homme va mourir. Alors, on lui donne, en tant qu'humain, la myrrhe pour sa sépulture. Qui préfigure sa sépulture? C'est qu'un jour, il va mourir. Dieu ne meurt pas, mais l'homme meurt. Voilà pourquoi Jésus, ayant deux natures, nature divine et nature humaine, en tant qu'homme, il va mourir. Alors on lui donne déjà la myrrhe. Ça préfigure un peu la fin de sa vie, sa passion, sa mort sur la croix. Et bon, chez nous, il y a plusieurs églises, mais les mentalités ne changent pas. Bon, je ne vais pas commencer à parler d'autres églises, mais dans l'Église catholique, on est conscient d'une chose, c'est qu'on a évangélisé. Depuis, il y a toute une histoire. Hein. Le père Macaire, n'est-ce pas, qui... notre spécialiste maison en histoire de l'Église, hein, Macaire Manimba au Blas de Marie, qui assure l'émission Histoire sur nos antennes chaque samedi soir, je crois le dira beaucoup mieux que moi. En fait, il y a toute une histoire. Donc on a connu plusieurs étapes d'évangélisation. Et bon, après l'évangélisation par les missionnaires européens qui avaient amené l'évangile ici, bon, il y a l'évangélisation par les autochtones, il y a l'inculturation de l'évangile, mais bon, les défis, c'est l'évangélisation en profondeur. C'est ça. Il y en a qui parlent de la nouvelle évangélisation, ça c'est un concept qu'on utilise au niveau de l'Église universelle, notamment au Vatican, dicaster pour la nouvelle évangélisation, mais chez nous souvent, on parle de l'évangélisation en profondeur. C'est ça les défis. Et on continue. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement... pendant la messe, quand on prêche ou quoi, mais à travers les écoles. Parce que nous avons des enfants, n'est-ce pas, que nous gérons dans nos écoles. On les évangélise aussi. Et dans nos universités catholiques, eh bien, c'est aussi un défi, c'est-à-dire passer aussi par ces canaux-là pour évangéliser. Donc, les défis sont énormes. Je ne vais pas parler d'autres églises. Bon, moi, pour nous, on considère que ces défis-là s'appellent l'évangélisation en profondeur.
Voilà, on va prendre encore une participation. Bonjour ma radio et bonne année à tous. J'ai quelques questions. La première, le roi mage venu voir Jésus avait des offrandes. Alors, la question est de savoir si les trois mages sont venus dans un même lieu ou bien chacun est venu de son coin et ils se sont rencontrés chez Hérode.
Voici que des mages venus de l'Orient, n'est-ce pas, arrivent à Jérusalem. Bon, c'est en fait, il a lu le texte avec une attention particulière, parce que ça, ce que dit le texte, hein, j'ai pas le texte grec avec moi, mais du moins, le texte dit ceci, et il a raison, la question est pertinente, Alors, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. En fait, c'est très simple de dire, bon, c'est qu'ils ont voyagé ensemble. Mais bon, on peut aussi dire, est-ce que le texte veut aussi dire que chacun est venu de son coin, toujours de l'Orient, mais chacun d'un pays différent, d'un endroit différent, ils se sont rencontrés à Jérusalem? Est-ce que cette nuance-là est suggérée? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Il faut revenir au texte grec pour répondre. Bon, ce qui est important, c'est que bon, ils viennent tous de l'Orient ancien. Ils viennent de l'Orient, du Moyen-Orient ancien, et on situe plus ou moins leur... parce que là où il y avait un centre d'astrologie de l'Antiquité très développé, c'était chez les Perses. Et donc, en Iran actuel. Il doit venir de l'Iran actuel où il y avait beaucoup de gens qui avaient développé la passion, des connaissances sur l'astrologie, sur le mouvement des astres. Alors, ils viennent de là et puis ils arrivent à Jérusalem. Ça, c'est ce qui est plus important à retenir.
Vu le sens chrétien du mot épiphanie, est-ce qu'on peut baptiser sous ces noms? Merci beaucoup, c'est gentil, Nangwa depuis Goma.
Bon, il y en a qui portent le nom de l'épiphanie. Hein. Il s'appelle Épiphanie parce que peut-être on l'a baptisé le jour de l'épiphanie. Ça existe dans l'église, évidemment.
Voilà, on va prendre encore, on va écouter cette note vocale.
Bonjour, bonjour Radio Maria, bonjour mon père.
Bonjour,
bonjour
maman.
Bonjour à tous ceux qui sont là-bas au plateau. Malheureusement, je n'ai pas retenu le nom du frère qui est à vos côtés aujourd'hui. En tout cas, à vous tous là-bas, bonne année, tous mes meilleurs voeux.
Merci.
De bonheur, de prospérité, de joie, de paix pour cette année nouvelle. Moi, c'est Maman Honorine, oui. Saint-Jean-Apôtre, cité Maman Mobutu, diocèse de Kisantu. Mon père, quand vous avez introduit l'aspect épiphanie, vous nous avez donné plusieurs cas d'épiphanie de notre Seigneur. Alors, en ce qui concerne la manifestation de sa gloire au noce de Cana, au fait, Jésus s'est manifesté uniquement à ses disciples qui ont commencé à croire à lui, qui ont vécu sa gloire dans la transformation de l'eau en vin, ou bien que tous ceux qui étaient aussi à ce mariage avaient compris, on leur avait dit, voilà ce vin que vous prenez qui est bon, mieux que le premier vin vient de Jésus. C'est Jésus qui vient de faire ce miracle-là. Donc, mon problème se situe à ce niveau. Donc, manifestation à tout le monde ou bien uniquement à ses disciples. Parce que pour les rois mages, c'est clair, ce sont les rois mages à qui l'étoile s'était montrée et ce sont ces rois mages qui sont arrivés jusqu'à là où l'enfant était né et ils ont offert leur cadeau. Merci beaucoup, mon père, et bonne journée à tout le monde.
Merci à Maman Honorine, depuis Saint-Jean-Apôtre.
Merci à Maman Honorine, merveille à vous aussi. Maman, bonne année. Beaucoup de grâces de la part du Seigneur par la glorieuse intercession de la très sainte Vierge Marie. Et bon, elle a rappelé le noce de Cana, qui fait partie des différentes épiphanies. Et la particularité de l'épiphanie que nous célébrons après la Sainte Famille, c'est qu'il s'agit de la manifestation aux nations païennes. Ça, c'est vraiment la particularité. Noël, c'est déjà une épiphanie. Jésus qui se manifeste. Et ceux qui sont venus lui rendre visite, notamment les bergers, l'ont vu. Et ils ont aussi accueilli, ils ont cru en lui. Et le 6 janvier, ou le dimanche après l'épiphanie, après la Sainte Famille, on célèbre l'épiphanie comme manifestation de Jésus aux païens. Alors, les points culminants de toutes les formes, de toutes les épiphanies, c'est le Jourdain. Pourquoi? Parce que, et vous comprenez pourquoi le temps de Noël s'est conclu avec le baptême du Seigneur. Parce que là, il s'agit de l'épiphanie trinitaire. C'est-à-dire, le Fils se manifeste avec le Père et le Saint-Esprit. Parce qu'à Noël, c'est le Fils qui se manifeste. Ce n'est pas le Père, le Fils se manifeste. L'Esprit non plus ne se manifeste pas à Noël. C'est la naissance de Jésus, c'est le Fils qui se manifeste. Et puis, après la Sainte Famille, on célèbre l'épiphanie du Seigneur. Là, c'est encore les fils qui se manifestent aux nations païennes. Et au Jourdain, à la clôture de Noël, l'épiphanie devient trinitaire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les fils qui se manifestent, les pères se manifestent parce qu'il y a la voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, désignant le Christ ». Et puis la colombe qui descend sur le Christ, qui est la manifestation, l'épiphanie de l'Esprit-Saint. Donc ça, c'est important de le savoir. On revient maintenant sur l'épiphanie de Noce de Cana. Quelle est la particularité de cette épiphanie? C'est que cette épiphanie marque le début de la mission de Jésus. C'est une épiphanie assez particulière. Ça paraît un peu restreint, une épiphanie restreinte, parce que ceux qui sont là, eh bien, c'est différent. Par exemple, de Noël, où il y a l'épiphanie, l'annonce par les anges, ou bien l'annonce par l'étoile. Là, il y a un fait, Jésus transforme l'eau en vin. Et puis le texte dit, en Jean 2, 11, je crois, il a dit, voilà, tel fut le signe, n'est-ce pas, le commencement des signes accomplis par Jésus. Je vais retrouver le texte, hein, c'est beaucoup mieux pour donner une réponse précise. Oui, alors voilà, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, la particularité de cette épiphanie, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est une épiphanie qui marque la mission officielle de Jésus. Le début plutôt de la mission officielle de Jésus, parce qu'il se manifeste à travers un miracle qu'il accomplit. À Noël, il se manifeste à travers sa naissance. Il n'accomplit pas les miracles. Et s'il y a miracle, c'est miracle du Père. Épiphanie, qu'on célèbre après la Sainte Famille, eh bien là, il se manifeste par l'étoile. C'est l'étoile que le Père fait apparaître pour qu'on puisse découvrir que son Fils est né. Et il se manifeste ainsi aux païens. Alors, au Noce de Cana, c'est une épiphanie due à un geste que Jésus lui-même accomplit. Et donc là, il se manifeste lui-même à travers un miracle. Il transforme l'eau en vin. Alors maintenant, il s'est manifesté à tout le monde. Ils ont vu, mais ce n'est pas tout le monde qui croit. Seulement ses disciples qui croient en lui. Alors on dit, il se manifesta, mais ses disciples crurent en lui. Alors c'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire à tout le monde. Parce que tous ceux qui étaient là ont vu des miracles, l'eau transformée en vin. Mais qui croit, ce sont seulement ses disciples. Dans toutes les épiphanies, c'est comme cela. Il se manifeste à tous ceux qui sont là, à tout le monde. Mais ceux qui croient, eh bien, sont ceux qui acceptent. Il y en a qui ne croient pas. Parce qu'il y en a qui ont vu Jésus naître, ils n'ont pas cru. Il y a d'autres aussi qui ont vu l'étoile, mais ils n'ont pas cru. Comme Hérode n'a pas cru. On lui a parlé de l'étoile, il n'a pas cru. Y compris les scribes de Jérusalem, ils n'ont pas cru. Mais les mages ont cru. Alors, au Noce de Cana, c'est la même chose. Il manifeste sa gloire. Tous ceux qui étaient là ont vu des miracles, mais ce n'est pas tout le monde qui va croire. Voilà pourquoi le texte dit « Ses disciples crurent en lui ».
Et voilà, mon père, nous allons finir la première partie par ici. Un mot de clôture.
Nous souhaitons encore une fois bonne année à tout le monde. Hein.
Ouais.
Donc, l'épiphanie, c'est la lumière du Christ. Hein. Le souhait est celui habituel, hein, que cette lumière du Christ dissipe les ténèbres de vos vies.
Alors, la question que vous nous aviez envoyée, nous allons donc le lire, hein, juste à la seconde partie. Ce sera la partie Lingala, ne vous inquiétez pas, on va y revenir dessus. Mon père, un mot de prière.
Et merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Seigneur, ta lumière resplendit dans le ciel et attire les mages vers toi. Fais resplendir ta lumière dans nos cœurs pour qu'elle dissipe les ténèbres de nos vies, ténèbres du péché, ténèbres du mal, ténèbres de la guerre, de la violence, ténèbres de la pauvreté, de la misère, ténèbres de tout ce qui nous empêche de t'accueillir. Vierge Marie, intercède auprès de ton Fils pour que l'épiphanie que nous avons célébrée depuis hier puisse porter des fruits escomptés dans la vie de tes enfants, spécialement dans la vie des auditeurs et auditrices de ta radio. Que la lumière de ton Fils resplendisse dans la vie de chacun d'eux pour que soient dissipées les ténèbres et qui empêchent à tes enfants d'être heureux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Seigneur, à travers cette bénédiction, fais resplendir ta lumière dans la vie de chacun de nous, de tous les tiens, pour que soient dissipées les ténèbres de la maladie, de la prison, de la pauvreté, les ténèbres de la guerre, de l'insécurité et tant d'autres formes de ténèbres. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.